Cet épisode s'intitule « Les villages du Rhône Sud ». Bienvenue dans la Terre à Boire. Et nous sommes en studio, studio module comme à notre habitude, autour de la table à côté de moi, Valérie Ouvertus. Bonsoir Valérie.
Bonsoir.
Une habituée désormais.
Presque, oui.
Voilà, on est ravis de t'avoir avec nous.
Merci.
Valérie Caviste, à Paris. Laurent Delceau, bonsoir.
Bonsoir.
J'ose pas dire habitué, parce que toi, tu fais partie des meubles.
Oui, c'est...
On peut dire.
On peut dire ça.
On peut dire ça depuis le début, depuis la toute première émission. Caviste, patron du Wine Therapy à Paris. Et notre passionné passionnant, Patrice Defay, bonsoir.
Bonsoir.
Toi aussi, tu fais partie des meubles. Mais...
Exactement.
Tu le prends comme un compliment.
Oui,
bien entendu. On se retrouve donc pour parler Rhône Sud aujourd'hui. C'est une de ces émissions qui sont réalisées en partenariat avec Interrhône, voilà, l'organisme qui promeut les vins des Côtes du Rhône. Et comme je l'ai déjà répété quand on avait fait cette émission, une émission sur Rasto, quand on est allé faire un tour à Baume de Venise ou dans le Luberon. Voilà, certes, c'est Interrhône qui produit cette émission, mais la ligne éditoriale de la Terre à Boire demeure la même. On choisit des vins, les vins qu'on préfère, on parle de vins qu'on aime. Et quand on dit qu'on les aime, c'est qu'on les aime vraiment. C'est pas qu'on nous a imposé de dire que celui-là était bon. Et c'est pour ça qu'on s'est livré à une petite sélection de vins avec la collaboration des vignerons qui nous envoient gentiment des échantillons. On aura l'occasion d'y revenir. Le thème aujourd'hui, chers amis, il est un peu complexe à définir, à expliquer. Ce n'est pas forcément des appellations dont on parle souvent, puisqu'on va parler des Côtes-du-Rhône Village. Et dans les Côtes-du-Rhône Village, ceux qui ont la chance d'avoir sur la bouteille le nom du village. On appelle ça les Côtes-du-Rhône à dénomination géographique complémentaire. Je suis d'autant plus fier que je viens juste d'apprendre la formule. C'est la formule officielle de l'INAO. Sinon, on dit aussi les Côtes-du-Rhône-Village avec nom de commune ou encore les Côtes-du-Rhône-Village nommés. Ils sont au nombre de 22. Et pour en parler avec nous, on a un invité. Bonjour Vincent Dessalles.
Bonjour Romain, bonjour à tous, bonjour Valérie. Merci
Bonjour,
de m'avoir convié à votre émission.
Ben on est ravis de vous avoir. Et pour tout dire, on a besoin de vous quand même, hein, pour nous aider à faire le tri, à expliquer un peu de quoi il s'agit quand on parle de ces Côtes-du-Rhône Village nommés. Vincent, vous êtes président de la section promotion des Côtes-du-Rhône Village nommés, donc, chez Interrhône. Et évidemment, vous êtes vous-même vigneron, mais pas que, de ce que j'en sais. Vous êtes aussi polyculteur, vous faites des olives, des melons, des coings, c'est ça ?
Ah, vous avez beaucoup d'informations. Hein. C'est tout à fait ça. Oui, j'ai une exploitation qui est nichée dans un endroit où la viticulture se comporte bien, mais on peut également en faire d'autres cultures. Et j'essaye d'avoir une diversité. Ça permet d'avoir une biodiversité aussi autour de l'exploitation et d'entretenir le paysage. Voilà.
Quelque chose me dit qu'on va revenir sur cette notion de richesse et de biodiversité. Alors, le thème, ce sont donc ces 22 villages. Si vous le voulez bien, je vous propose qu'on commence par démêler un peu ce millefeuille. En Côte-du-Rhône, on peut être Côte-du-Rhône tout court, on peut être
tout à fait.
Côte-du-Rhône village, on
oui.
peut être Côte-du-Rhône village avec le nom de la commune.
Et ensuite, exactement.
Et là, c'est 22 villages, on va y revenir. Et ensuite, il y a l'étage supérieur, on peut être cru. Et là, il y a 17 crus sur toute la région, hein, Rhône-Sud et Rhône-Nord.
Voilà.
Alors que les Côtes-du-Rhône-Village nommés, on est bien d'accord, c'est uniquement en Rhône-Sud.
C'est uniquement en Rhône-Sud. Et pour les crus, vous en avez 9 au sud et 8 au nord. Les Côtes-du-Rhône-Village nommés, vous l'avez très bien expliqué, Romain, hein, c'est une pyramide hein, donc, qui part de l'appellation régionale Côtes-du-Rhône, qui représente à peu près 200 communes et 30 000 hectares. Les Côtes-du-Rhône-Village, dans leur ensemble, c'est une centaine de communes. Et les Côtes-du-Rhône-Village nommés, vous l'avez dit, c'est 22 dénominations géographiques complémentaires qui partent du plus au sud, le plateau de Signargues, pour remonter au nord vers Roussey-les-Vignes. Voilà.
Alors, je vais les citer tous, comme ça, tout le monde, il n'y aura pas de jaloux. Et ensuite, on va rentrer un peu plus dans le détail. On a Chusclan, on a Gadagne, on a Laudun, on a Massif du Chaux, on a Nyons, Plan de Dieu, Puy-Mera, Roex, Rochegude, Roussey-les-Vignes, Sablé, Saint-Andéol, Saint-Gervais, Saint-Maurice-sur-Aigue, Saint-Pantaléon-les-Vignes, Sainte-Cécile-les-Vignes, Séguré, Suse-la-Rousse, Vaison-la-Romaine, Valréas et Visan. Voilà, ça y est, on les a tous dit.
Dans l'ordre alphabétique, a priori.
A priori, dans l'ordre alphabétique, parce que ce n'est pas un ordre géographique, tu l'as bien relevé. On va dire quand même que quand on est un Côte-du-Rhône village nommé, c'est un nom de commune, mais parfois, des vignerons de communes avoisinantes peuvent aussi contribuer à porter du raisin. Enfin, ils ont aussi des parcelles qui peuvent être dans l'appellation.
Entièrement, puisque sur les 22 villages nommés, certains ne représentent qu'une seule commune de manière définie par administrativement, mais d'autres sont, puisque ces communes, ces noms sont donnés à un ensemble de vignerons qui portent parfois le nom d'une commune ou le nom d'un lieu géographique. C'est le cas, par exemple, de Plateau de Signargues, c'est le cas de Saint-Andéol, de Plante de Dieu, Massif du Chaux, voilà. Oui.
Non, je me tourne vers mes cavistes en face de moi, Laurent, Valérie. C'est Côte-du-Rhône village, c'est pas forcément les vins qu'on retrouve le plus représentés, promus dans les caves, en tout cas les caves parisiennes. Est-ce que vous avez quand même croisé ces vins-là en dégustation ou lors de vacances ou dans vos visites dans les vignes? Est-ce que vous portez un regard sur ces Côte-du-Rhône village nommés ou pas nommé, mais là, on parle des nommés, en l'occurrence. Valérie.
Moi, j'en ai dans ma cave, par exemple. Voilà. J'en ai dans la cave, et puis les clients sont ravis, parce qu'en fait, du coup, ils vont dessus. Certains connaissent déjà. Certains
en connaissent. Lesquels tu aurais, toi, dans ta cave, par exemple ?
Massif du Chaux.
Ouais.
Plan de Dieu.
Oui.
Et puis, qu'est-ce que j'aurais d'autre que j'ai oublié ?
Comment tu les présentes à tes clients quand ils se présentent à la cave ?
Je leur dis que c'est un excellent rapport qualité-plaisir. Et que là, il ne faut pas qu'ils hésitent à se faire plaisir pour un repas du quotidien. C'est vraiment des appellations très très sympas.
Comme je le dis régulièrement, la plupart du temps, mes clients ne savent pas ce qu'ils dégustent au moment où ils le dégustent. Donc, en toute transparence, déjà quand le client me dit qu'il veut un Côte-du-Rhône, on est déjà allé bien loin. Alors, la perception du fait qu'il y a cette pyramide...
Je ne m'attendais pas à ce que tu me dises, il y a des clients qui viennent et qui demandent un Chusclan.
Voilà, exactement. Non, mais il faut être effectivement clair sur le sujet. C'est que quand le client parle déjà de Côte-du-Rhône, on est bien avancé. Hein. C'est quand même déjà une notion de précision qui n'est pas courante. Bon, aussi parce que j'ai une clientèle quand même très internationale. Mais moi, j'aime bien effectivement les Côtes-du-Rhône village, parce que j'en ai quelques-uns. Là, en ce moment, j'ai un peu été dépouillé, mais moi, j'ai un domaine en Gadagne, notamment, dont j'aime bien défendre les vins. Bon, après, le fait que ce soit Gadagne, ça donne un petit complément d'information, mais ça reste un profil de vin qui est quand même cohérent, hein, parce que bon, le but du jeu, c'est que les clients sachent un peu retrouver leur petit au moment où on leur parle d'une appellation, et Côte-du-Rhône village avec dénomination, même s'il y a des spécificités, ça reste des profils de vin qui sont cohérents. Enfin, je pense que Vincent va pas me contredire là-dessus. Il y a une espèce d'homogénéité dans la démarche Côte-du-Rhône village avec dénomination, avec des spécificités. Maintenant, humilité, je dirais que c'est compliqué pour un caviste ou pour un gars qui tient un bar à vin comme moi d'annoncer un peu les spécificités de chacun des villages. Moi, j'ai une affinité avec des domaines, j'ai une affinité éventuellement avec des paysages. Je parlais de Massif du Chaux quand on parlait du regroupement de communes. Il se trouve que je trouve que cette appellation a un profil de paysage qui me parle, qui me donne envie de le faire découvrir à mes clients à travers les vins, par exemple. Bon, en ce moment, j'en ai pas, mais ça fait partie des choses. J'ai moins d'affinité avec des paysages type Plan de Dieu, que je trouve plus uniforme, Massif du Chaux. Après, c'est une question de personnalité du caviste, d'avoir envie de faire découvrir des terroirs, quoi. Mais... Bon, et là, Vincent va peut-être nous éclairer un petit peu là-dessus, mais la spécificité de chacun des villages. Moi, j'ai fait mes études de sommellerie à Suze-la-Rousse. Bon, bah voilà, oui, je vois bien à quoi ça ressemble. Ça peut être sympa à expliquer, mais plus en termes de lieux, de paysages que de spécificité de vin. Mais bon.
Vincent, on est sur quand même une zone géographique assez large qui va des deux côtés, enfin qui s'étend sur les deux côtés du Rhône, rive droite, rive gauche, qui va assez, enfin voilà, qui rentre quand même pas mal dans les terres à l'ouest, qui va assez loin à l'est, Nyons, c'est au-delà de Suze-la-Rousse, on est en Drôme provençale. Comment décrire, si on veut peut-être compartimenter, donner un petit peu des sous-régions, des typologie, des typicités de vin dans cette grande famille.
Les Côtes du Rhône, donc le Transept, c'est bien sûr notre fleuve originel qui sépare les deux rives. Le Rhône est de chaque côté, ses affluents, d'un côté la Cèze et l'Ardèche, de l'autre côté l'Ouvèze et l'Aigue particulièrement. Vous parliez à l'instant du plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est une grande zone où on peut regrouper quelques-uns des villages. Ces villages sont plan de Dieu, Sainte-Cécile, jusqu'à Suze-la-Rousse. Ce sont la partie qui est composée d'un territoire assez uniforme, vous nous le rappeliez, qui sont issus des dépôts fluviatiles des deux affluents du Rhône, l'Ouvèze et l'Aigue. Et de l'autre côté, donc vous avez l'Audun, vous avez plateau de Signargues, vous avez Chesclan qui sont en bord de Cèze, au sud de la Cèze, où vous avez des dépôts, des galets roulés là qui sont plus dominants. Vous avez cité Gadagne qui est un exemple aussi de zone à galets roulés.
Galets roulés qu'on va retrouver à l'Irak, à Châteauneuf-du-Pape, qui est assez typique de certains Rhône Sud très prestigieux et beaucoup plus identifiés.
Exactement. Exactement. Après, vous avez des villages nommés donc, qui se situent plus sur les montagnes. Vous en avez cité un très beau, le Massif du Chaux, où il y a des paysages fantastiques, qui regroupent, je crois, 5 communes, Massif du Chaux. Et vous avez cette partie qui est montagneuse, qui, comme on l'avait dit Romain, remonte jusqu'à Nyons, qui est la porte, qui ferme la porte des Côtes du Rhône, puisque derrière le massif des Baronnies s'élève, et les dernières communes en Côtes du Rhône sont Roussey-les-Vignes, Nyons, Puméra. Plus au sud, vous avez autour du massif des Dentelles qui s'intercale avec des crues, les villages type Rouex, type Séguré, qui ont une typicité certaine. Et tout à l'heure, on a parlé de la pyramide des appellations, mais cette pyramide est appelée à évoluer, puisque quand on est en appellation village sans nom de commune, on peut prétendre le devenir un jour, et quand on est village nommé, on peut prétendre devenir un jour un cru, comme ça a été le cas dernièrement avec Iran.
Justement, quelle différence dans le cahier des charges entre le Côte du Rhône village classique, on va dire, et le Côte du Rhône village nommé?
Alors, la différence, elle est au niveau du rendement à l'hectare, qui est un peu plus resserré en Côte du Rhône nommé. Il y a 41 hectolitres hectare au maximum. Et dans la plupart des cas, on se situe à des rendements de 35 hectolitres. Vous avez également, alors on va le mettre entre guillemets, parce que maintenant c'est pas forcément bien perçu par le consommateur, quoique, si c'est bien travaillé, c'est le degré minimum alcoolique qui est de 12,5, vous voyez. Et ensuite, que les villages nommés ont commencé il y a bien longtemps. En 1966, ils ont été reconnus par l'INAO, mais l'Audun et Chesclan avaient été reconnus en 1947 déjà comme des villages présentant une singularité au niveau de la qualité des vins. Donc, l'évolution des cahiers des charges successifs nous amène aujourd'hui à les homogénéiser sans enlever la typicité de chacun de ces villages.
Alors justement, vous en avez cité un, l'Audun, et vous avez parlé de cette pyramide. On va essayer de comprendre aussi en quoi ça, enfin quel est l'intérêt, le côté émulation, ce que ça provoque, le fait de vouloir devenir nommé, ensuite de vouloir devenir cru. L'Audin, on est en présence d'un Côte du Rhône village donc nommé, qui est là depuis bien longtemps et qui est supposé être le prochain à franchir l'étape pour passer cru. D'après ce que j'ai compris, c'est imminent, c'est dans les mois qui viennent, c'est ça?
Oui, l'Audin a reçu un avis favorable de la commission d'enquête INAO parce que dans les arcanes de l'INAO, le temps long est le temps normal. Donc l'Audin a initié un dossier pour passer à l'étage supérieur il y a une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, ils voient le bout du tunnel. Donc grand mérite à eux. Vous savez que l'INAO reconnaît une aventure des hommes qui cultivent un terroir donc et qui le cultivent de manière loyale, qui le cultivent avec des méthodes de travail locales et qui sont constantes dans le temps. Donc la constance fait que l'INAO prend son temps. quelquefois un peu trop au goût des vignerons et c'est sans doute quelque chose qu'il faudra améliorer dans les années à venir compte tenu des changements climatiques qui sont en cours.
Bon, je pense qu'on va être amené à en reparler des défis qui attendent. Alors, ces villages.
Juste pour l'Audin, au-delà du fait que l'appellation de village nommé date de 1967, il y a du vin depuis très très longtemps, puis ça date, il y avait un oppidum de César il y a des centaines d'années, voire des millénaires. Donc il y a une histoire romaine, on va dire, du vignoble à l'Audin. Donc l'histoire s'ancre.
Faut dire que l'antiquité profondément.
Et l'une des caractéristiques de l'Audin, effectivement, c'est qu'il y a un plateau argilo-calcaire assez important, qui permet bien sûr d'avoir... on est dans le sud, donc il y a toujours beaucoup de grenache rouge et 75% de rouge, mais il y a surtout 25% de blanc. Et les blancs, avec ces caractéristiques de terroir argilo-calcaire, peuvent avoir une réelle... Enfin, là, le calcaire, on sait que c'est très bon pour avoir un peu d'acidité. Et quand on est dans le sud, avoir de l'acidité, c'est important. Donc voilà, une des caractéristiques de l'Audin qui lui permet maintenant, je pense, en dehors de la qualité historique et de la profondeur historique, c'est le sol, l'argilo-calcaire, qui permet notamment d'avoir des blancs avec un assez bel équilibre pour la latitude.
Alors, c'est ce qu'on a... Oui, pardon.
C'est exactement ça, excusez-moi, Romain. L'Audin est... Le Côte-du-Rhône, village nommé pour l'instant, qui va passer cru, qui produit environ 25 à 30% en blanc. Et c'est vraiment sa spécificité, et vous allez sûrement le constater, il garde une certaine fraîcheur, malgré que l'Audin soit situé au niveau d'Orange, entre Orange et Avignon, quasiment.
Alors, c'est ce qu'on a effectivement dans nos verres. On a un Côte-du-Rhône, village l'Audin, en blanc. Voilà, c'est vrai que c'est une terre identifiée quand même surtout sur les rouges, mais là on a quand même des blancs qui sont très intéressants. Le domaine, c'est un domaine dont on a déjà eu l'occasion de parler, c'est le domaine des Maravias, qu'on a déjà goûté. Laurent, c'est toi qui nous as amené ça la première fois, la pierre de Josette, c'était un Lyrac.
Tout à fait,
si je me rappelle bien.
Oui, oui. Ouais, bon, il faut préciser effectivement qu'on a reçu 8 cuvées différentes pour cet exercice.
De blanc de l'Audin.
De blanc de l'Audin, puisque bon, la particularité, on l'a dit, de l'Audin, donc, c'est d'avoir une forte représentation des blancs. Donc c'était intéressant justement d'aller voir cette spécificité. On a reçu 8 cuvées différentes qu'on a eu l'occasion de déguster. Et parmi ces 8 cuvées, il y en a 2 qui nous ont particulièrement plu sur 2 profils assez différents. Le premier, donc, on a dans notre verre actuellement qui est une dominante clairette très très nette, donc du domaine des Maravillas. C'est la cuvée maestrale. Bon, je vous cache pas qu'effectivement, je suis content qu'il vous ait plu aussi, puisque c'est un domaine pour lequel j'ai beaucoup de sympathie, d'affection, que j'ai connu essentiellement, effectivement, par un Lyrac qu'on appelle la pierre de Josette. Mais là, on arrive à avoir un vin avec une jolie fraîcheur et qu'on trouvait particulièrement adapté pour commencer, hein, en disant, ben voilà, c'est un vin sur lequel on peut commencer à l'apéro facilement. Le Rhône, ça peut être des vins où il faut vraiment accompagner avec des plats en sauce, etc. Là, on est sur quelque chose qui se boit tout seul, si je...
C'est vraiment le contraire d'un vin lourd. Hein, on est loin du cliché qu'on pourrait avoir de vin de blanc du Rhône, voilà, un peu épais. Là, c'est vraiment d'une légèreté.
Sachant que Vincent me contredira au besoin, mais bon, dans l'appellation Laudun, on a droit à 5 cépages, donc que sont le grenache blanc, le Viognier, la Roussanne, et puis Clairette et Bourboulinque. Et que pour être en Laudun, il faut au moins en avoir 2 dans l'assemblage, hein, me semble-t-il.
Exactement. Ça, c'est les Côtes du Rhône sont toujours des vins d'assemblage, et c'est tout à fait ce que vous venez d'évoquer.
Ce cahier des charges, est-ce qu'il s'applique à Laudun et différemment à Nyons ou à Plan de Dieu, ou est-ce qu'il est commun à l'ensemble des vins de village?
Alors,
l'encépagement, l'assemblage.
Alors, dans l'histoire des Côtes du Rhône village, comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a eu plusieurs périodes d'accession aux Côtes du Rhône village nommées. Dans une première partie, jusque dans les années 80, on accédait automatiquement avec les 3 couleurs, c'est-à-dire le rouge, le rosé et le blanc. À l'exception de Chesclan, qui n'avait eu la reconnaissance qu'en rosé et rouge. Depuis les années 80, l'INAO a souhaité ne donner ou ne reconnaître le terroir que dans les produits qui représentaient un certain volume ou une certaine quantité produite. Et pour les derniers venus, vous avez cité tout à l'heure Plateau de Signargues, Plan de Dieu, Massif du Chaux. Ceux-ci n'ont le droit de produire uniquement du rouge. Quant aux cahiers des charges, unique à une appellation, c'est réservé aux crus, c'est-à-dire aux Gigondas, Vaqueras. Donc l'odeur a rédigé un cahier des charges qui lui sera propre lorsqu'il aura été validé par l'INAO et qu'ils seront devenus crus.
Donc les 5 cépages blancs qu'a cité Patrice, c'est 5 cépages que peuvent utiliser tous les villages pour faire leur blanc.
Exactement, on peut rajouter la Marsanne aussi, on peut rajouter, je sais pas, éventuellement l'Uniblanc, mais qu'il y a des contrastes selon les endroits. J'espère qu'on pourra y rajouter bientôt un cépage qui a été oublié des Côtes-du-Rhône et qui retrouve toute sa logique dans les années chaudes qui nous arrivent. C'est le Carignan blanc, qui a de certaines vertus. Vous avez également le Bourboulinque. Voilà. Les villages sont un vin d'hommes, de terroirs différents et donc d'assemblage aussi, et on le retrouve dans ces vins.
Donc sur la dégustation qu'on a faite, hein, sur les 8 blancs de Laudun, puisque c'est de ça qu'on parle, on va, entre guillemets, moi ce que j'appelle des vins de gastronomie, on a plutôt une richesse, c'est-à-dire un assemblage de cépages assez aromatiques, assez riches, que sont le Grenache, le Viognier et la Roussanne. Et plus on va mettre du Bourboulinque, plus on va mettre de la Clairette, plus on va pouvoir avoir ce côté un peu plus vif, acide, acidulé. Et la particularité de la Clairette, en tout cas à Laudun, c'est que la Clairette, c'est un cépage qui est résistant, mais qui s'exprime assez bien sur des sols assez pauvres et calcaire, hein, ce qui est le cas du plateau de Laudun. Et donc c'est pour ça que on a une, enfin je pense sur le Maria Villas, on a une belle expression de la Clairette, parce que la Clairette c'est pas forcément un cépage très facile, mais il faut qu'il y ait toujours un binôme cépage terroir et toujours bien sûr travail du vigneron, mais ça c'est un autre sujet. Mais il s'exprime en tout cas assez bien sur le terroir de le territoire de Laudun.
Laudun qui regroupe les communes de également Saint-Victor-Lacoste et Tresques. Et comme on parle de Tresques, j'en profite pour passer un salut à l'ami Olivier Privat qui peut-être nous écoute. Et c'est en tout cas un joli coin à aller visiter en vacances. Il faut que je précise qu'on parle beaucoup de Laudun. Après, on va parler d'une autre appellation, Nyons. On était obligé d'en parler, d'en choisir 2. On n'allait pas déguster 22 vins en une émission qui fait entre 30 et 45 minutes et parfois une heure. Voilà, donc pardon aux autres. On essaye de parler de tout le monde, de citer les noms. Mais c'est vrai qu'on s'arrête sur Laudun. Audin. Pourquoi l'Audin ? Ben justement parce que c'est celui qui va être le prochain à passer cru. Et pourquoi on parlera de Nyons dans la deuxième partie ? Ben parce que c'est le dernier arrivé dans la famille et on va le goûter en rouge. On s'est dit qu'on allait, comme l'a dit Laurent, on a aimé deux vins blancs de l'Audin, donc on en goûte un deuxième pour mettre un peu de lumière sur la deuxième cuvée. Valérie, qu'est-ce que tu en penses de ces blancs ?
C'était le préféré de Valérie. Celui-là.
C'était le préféré de Valérie, c'est lequel ?
On le dira après. On le dit tout de suite ?
On le dit tout de suite.
Parce que là, on est bien
à l'aveugle.
Déjà. On est déjà bien
à
l'aveugle.
C'est vrai. On le dit tout de suite. Donc, c'est un. Alors, c'est le Laudin, en fait, de chez Chapoutier. Voilà, une cuvée qui a été élaborée avec Joseph Violin. Enfin,
qui est un restaurateur.
Tout à fait.
Un chef, ouais.
Et puis, voilà, une cuvée donc, en 2021 qui, moi, m'a beaucoup plu.
Quelle différence avec celui de Jean-Frédéric Bistagne alors ?
Alors, c'est vrai que sur le premier vin, c'était davantage pour moi plus sur la fraîcheur, sur celui qu'on vient de déguster. Là, il y a plus de rondeur, enfin, c'est ce qu'on pourrait appeler un vin gastronomique. Et voilà, j'imagine davantage ce vin accordé au cours d'un repas, voilà, sur quelque chose de sympa. Mais bon, on me l'offrirait pour boire un verre à l'apéro, je dis oui aussi. Hein.
En fait, il est nettement plus aromatique. Il est probablement plus dans ce qu'on attend des canons du Rhône Sud.
Il est plus proche,
l'ampleur. On a une aromatique marquée. Enfin, c'est un vin qui est assez riche. Et qui, oui, nous a vraiment séduit hein, de façon unanime.
Il est plus proche de ce qu'on peut imaginer, de ce qu'on peut attendre d'un Côte-du-Rhône blanc, à mes yeux. Voilà.
Vincent, c'est important pour vous qui défendez du coup cette appellation des Côtes-du-Rhône villages nommés, d'essayer d'avoir une palette la plus large qui permette de proposer des blancs très légers, aromatiques, des blancs un peu plus puissants de gastronomie. Et la même chose s'applique au rouge. C'est un objet de votre travail d'amener les vignerons, d'accompagner les vignerons vers cette diversité des vins.
C'est ce qui fait toute la richesse des Côtes-du-Rhône et des Côtes-du-Rhône village nommés, c'est d'avoir une diversité entre chacun des villages et chacun des vignerons. Il faut arriver à garder cette diversité sans travestir notre identité, tout en restant dans un cahier des charges qui doit nous unir. Sinon, on se fait tirer les oreilles par l'INAO. Quelquefois, certains d'entre nous, pour ne pas respecter les canons, on va dire, de l'appellation, sont obligés d'en sortir. Alors, souvent à juste titre, mais pour quelques-uns d'entre eux, c'est vraiment dommage. Mais on essaye, en tout cas, que quand la qualité du Rhône est représentée, quand cette diversité de terroirs, d'assemblages, de vignerons s'exprime, ça puisse se sublimer à travers la bouteille et celle que vous dégustez emporte l'exemple, je pense. J'ai pas la chance d'être avec vous, mais
c'est dommage.
J'entends les bruits de verre.
Non, puis
je dégusterai l'oignon en même temps que vous.
Ah, avec plaisir. Ouais.
Non, puis ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, en tout cas pour les deux Laudin blancs dont on a parlé, et c'est aussi pour ça que ça a le gros avantage que ce soit pas encore un cru, c'est qu'on est sur un rapport qualité-prix excellent, puisque les deux, on est à 10 euros.
Un peu plus cher sur Maravillas.
Maravillas, il y a combien ?
On est à moins de 15 euros.
D'accord, voilà. On est entre 10 et 15 euros. Je crois qu'on est à 11 euros sur le Chapoutier, et on est à 14 ou 15 euros. Mais enfin, ça reste un super rapport qualité-prix pour ce niveau-là, de je dirais, à la fois d'aromatique et de côté acidulé.
C'est des vins bien faits, équilibrés, sans défaut. On n'a rien à leur reprocher. C'est des vins de plaisir. Vincent, on voit bien que ce n'est pas forcément une affaire facile d'entrer dans cette dynamique, de vouloir passer cru. Qu'est-ce qui motive, au fond ? Parce qu'on se rend compte, de l'autre côté, du côté consommateur, que la lisibilité, même si vous faites des efforts, elle n'est pas toujours facile. Si on prend Kidam, même un amateur de vin, qui est en mesure de dire moi, je connais la différence entre Côte du Rhône Village, les villages nommés, les crus. Pourtant, ça reste une motivation importante pour les vignerons qui prennent leur bâton de pèlerin et vont entamer ce chemin qui, on va le dire quand même, c'est quand même un chemin vers la qualité aussi. Donc ça a du sens. Mais sont-ils pas parfois découragés en se disant bon, à quoi bon finalement, pourquoi se battre pour avoir le nom sur la bouteille, ensuite passer cru? Qu'est-ce que vous diriez de cette dynamique? Est-ce qu'elle est toujours aussi forte et est-ce que ça représente toujours un objectif pour les vignerons et les vigneronnes?
Je pense que la dynamique, elle est toujours là. Hein. Vous l'avez dit, l'odeur s'apprête à monter au niveau supérieur. Nyon, c'est arrivé il n'y a pas longtemps.
Ça va être un événement pour l'Audin. Ça va être un événement pour l'Audin de enfin passer cru.
Certainement.
Qu'est-ce que ça va changer pour eux?
Sans aucun doute, une autre visibilité. Ouais. Ils seront le 18e, hein, donc, puisqu'il y en a 17 aujourd'hui, ils seront le 18e. Vous serez à côté des noms les plus emblématiques de l'appellation, et pour le sud, bien sûr, Châteauneuf-du-Pape et Gigondas. Et vous serez à côté de noms également du nord de notre vallée
de
du Rhône.
De Condrieu, de Cotrotille, tout ça.
Exactement, de Cornas, de Saint-Joseph. Voilà.
Est-ce qu'il y a une vraie différence au niveau de la rémunération? Parce que bon, je pense qu'il y a aussi cette préoccupation aujourd'hui dans la vallée du Rhône de valoriser sa production, pour pas dire de l'écouler, parce que je pense qu'on est quand même face à une production qui est peut-être supérieure à la demande aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une vraie valorisation entre le passage à Côte-du-Rhône-Village, à des nommés?
Alors, vous savez, c'est un travail de longue haleine. Hein. C'est la même chose que celle qui nous conduit à obtenir le nom ou le cru. C'est pas parce que du jour au lendemain vous allez passer cru ou vous allez passer village nommé, je suis bien placé pour le savoir avec Nuance. C'est une émulation, c'est une volonté de chacun d'entre nous d'aller plus haut et de se distinguer encore mieux au sein de cette grande famille. On évoquait tout à l'heure les crus avec Vaqueras. Vaqueras est passé en cru dans les années 90-91. Il a fallu une vingtaine d'années pour obtenir un niveau de rémunération digne d'un cru. Actuellement, vous avez Vin Sobre qui est passé en 2006 et qui travaille dur pour essayer de mieux rémunérer, d'accéder à de nouveaux marchés. Ça vous donne une lisibilité particulièrement en France, mais surtout à l'export. Les journalistes étrangers viennent plus facilement et directement visiter un cru qu'un village nommé et qu'un village classique, on va dire. Après, c'est un travail, on ne dupe pas le client. Il faut que les vins soient de qualité et de facture irréprochable. Vous en avez la preuve là dans vos verres. Hein. Vous avez une typicité, vous avez une singularité. Après, chaque vigneron apporte sa pierre à l'édifice. Voilà, alors vous avez cité tout à l'heure la Clairette, là, qui apporte cette fraîcheur. On pourrait citer la Marsanne ou la Roussanne, voilà, chacun de ces cépages magnifiés par un vigneron dans un terroir très particulier, permet de s'élever et chaque fois d'aller un petit peu plus haut. Mais dans l'instant, il ne faut pas s'imaginer que du jour au lendemain, on va doubler notre valorisation à l'hectare. on en est bien loin.
Alors, on va franchir le Rhône et on va changer de couleur.
Le Rubicon.
Le Rubicon. C'est vrai, les armées de César, c'est très présent, hein, la présence antique dans la région. Il y a le camp de César, l'oppidum à Gaujac. Il y a pas mal de choses à voir.
Vous avez dans la vallée du Rhône, les Romains ont vulgarisé la culture de la vigne. Hein. C'est eux qui, au travers de la remontée du fleuve vers Lyon, ont structuré le vignoble quelque part. Les Gaulois en avaient un petit peu. Vous connaissez l'esprit gaulois, qu'on retrouve encore un peu dans chacun de nos villages. Mais vous avez un magnifique théâtre romain en Orange. Vous en avez un autre aussi à Vaison-la-Romaine, qui est plus loin dans la vallée. Voilà. Et tout ça fait que la présence, la romanité nous a structurés.
Alors, quand on franchit le Rhône, du coup, et on va presque complètement à l'est de l'appellation, enfin...
Au nord-est. Des Rhônes méridionaux. Ouais.
Des Rhônes méridionaux et de ces Côtes du Rhône village nommés. On est à Nyons. On est vraiment, Drôme provençal.
Nommé en 2020.
Le dernier arrivé dans la famille. Alors, je vais poser la même question. Qu'est-ce que ça a changé ? Alors, Nyons, c'est vraiment le village à côté de vous. Qu'est-ce que ça a changé pour eux de passer de Côte-du-Rhône village tout venant à Côte-du-Rhône village avec Nyons sur la bouteille ? Déjà, ça doit être une fierté. Il y a le nom.
Déjà,
sur la bouteille.
Ça fait exactement. Ça permet d'identifier son terroir. C'est attesté de sa singularité, et puis ça permet, vous voyez, comme vous le faites aujourd'hui dans votre magnifique émission, qu'on en parle. Cela va contribuer à une notoriété croissante qui va être le fruit du travail de chaque vigneron pour s'élever et accéder à de nouveaux marchés.
Sur Nyons, on peut dire qu'ils ont déjà des AOP, hein, mais pas en vin.
Mmh. Oui, Nyons est bien connu pour l'olive noire et l'huile d'olive. Hein,
et oui.
Ça fait... pas 30 ans encore, mais bientôt qu'ils ont été reconnus pour cette magnifique production. Ici, on est dans un endroit de l'appellation, comme il y en a d'autres, hein, où la vallée de l'Aigue s'enfonce et devient plus pentue. On est au pied du massif des Baronnies, massif date de 150 millions d'années derrière nous, hein, du Crétacé. Et ces vallées pentues conviennent bien à la culture de la vigne, mais conviennent bien aussi à la culture de l'olivier.
En rouge, on a dit un mot tout à l'heure de...
Nyons, c'est... Alors, sauf encore une fois de ma part, mais c'est 100% rouge.
Comme je le disais tout à l'heure, les villages qui ont été nommés depuis les années 90 sont des villages qui n'ont eu l'appellation uniquement en rouge, malgré la présence de quelques parcelles dans la zone délimitée et village, puisque c'est une zone très restrictive, de parcelles de blanc. Et ça va être le travail, et c'est mon travail au quotidien, d'essayer d'amener un grand nombre de ces villages-là à obtenir en blanc également l'appellation village nommé. Et c'est vrai que, vous le disiez avec l'odeur, avec un jeu de terroir et de cépage, vous arriviez à avoir quelque chose de magnifique. On est un peu plus dans les parties nord et dans les vallées qui s'enfoncent. Vous avez le cas de Sablé qui fait des blancs magnifiques au pied des dentelles de Montmirail, également Séguré, mais d'autres encore. Hein. Vous avez la chance d'avoir encore plus de fraîcheur la nuit sur ces coteaux. Et tous les blancs que l'on déguste sont de très très bonne qualité et on espère pouvoir les faire reconnaître assez rapidement par l'INAO.
Et là, effectivement, la fraîcheur, elle est plus apportée par le côté un peu plus, par l'altitude. Je crois qu'il y a un vent aussi qui s'appelle le Pontias, j'ai cru comprendre, qui soufflait.
Exactement.
Ouais. Vous n'avez pas de Mistral à Nyons ?
Alors, la particularité de Nyons, c'est qu'il y a très peu de Mistral. Alors, dire qu'il n'y en a pas, c'est être un peu chauvin. Mais...
Quand il est chez nous, il s'appelle le Pontias, c'est tout.
Voilà. Et il souffle tous les matins. Alors, le Pontias, c'est un vent local. C'est une brise de vallée, en fait, assez violente, qui souffle le matin, et c'est un vent protecteur, puisque c'est vrai qu'à Nyons, sur les coteaux, on a la chance d'être protégé par ce vent des maladies de la vigne, particulièrement le mildiou, mais aussi l'oïdium. Le Mistral souffle 30 à 40% moins fort qu'en vallée du Rhône, quand on parlait de l'Audun, donc là on est tout proche du Rhône tout à l'heure, et il souffre environ 30 à 40 jours de moins. Voilà.
Et puis, on vous en avez parlé, mais il y a aussi du coup l'amplitude, comme on a un peu de pente et d'altitude, on a l'amplitude thermique qui apporte donc la fraîcheur de nuit, qui apporte de la fraîcheur au rouge, où on a plutôt une dominante grenache syrah, hein, 66% je crois de grenache, 30% de syrah, et puis on a un peu de carignan et de mourvèdre qui essayent de prendre de la place, mais c'est grenache beaucoup et beaucoup de syrah également. Mais du coup,
exactement.
Avec un profil aromatique à Nyons, où on a aussi pas que de la confiture et des fruits mûrs, on a aussi des fruits rouges.
Que vous devez retrouver dans la bouteille que vous dégustez.
Oui, et que vous dégustez du coup en même temps que nous. C'est la cuvée
voilà,
quintessence.
Je, je prends mon verre alors.
Allez-y. C'est la cuvée quintessence de la cave coopérative qui s'appelle l'Agnon 16, si je ne me trompe pas.
Exactement.
On va noter que c'est un vin bio, avec le label agriculture biologique. Bon, qu'est-ce que vous diriez de ce vin ? Moi, c'est le genre de vin que j'apprécie beaucoup, que j'ai, ça me rappelle plein de choses.
On l'a sélectionné aussi.
Je crois qu'il y avait unanimité sur le fait qu'il était, c'est celui qui nous a le plus séduit. On a eu moins d'échantillons.
Moins d'échantillons, parce qu'il faut dire qu'à Nyons, il y a que 3 domaines indépendants et 4 caves coopératives, c'est ça ?
Exactement. Oui. Vous êtes parfaitement renseigné.
On a été informé. On a reçu 4 échantillons parmi ces 7. Et donc, celui qui nous a le plus, c'est ce quintessence, un vin de coopérative. Une fois n'est pas coutume. C'était déjà le cas quand on avait fait, je ne sais plus, c'était Rasto, je crois.
Baume de Venise, un vin de coopérative.
On rappelle que les coopératives ont le droit et font et travaillent aussi parfois très très bien.
Bah, je pense que ce qui nous a plu lors de la dégustation, c'est ce côté très frais. Hein. Il y a une vraie fraîcheur dans ce vin, un fruit qui est généreux, un fruit généreux, immédiat, qui est pas sur effectivement la surmaturité. Parce qu'on a eu des échantillons où il y avait franchement, on était allé chercher une maturité qui était limite pesante. Là, il y a la fraîcheur, il y a un petit côté mentholé qui nous a séduit. Et on le retrouve là, c'est la deuxième fois, c'est ça, le côté aussi
dominante de Syrah, j'imagine, non ?
Bon, Grenache Syrah, je pense que dominante de Grenache, mais avec une bonne partie de Syrah.
Grenache Syrah, c'est plutôt sympa. Et puis ce qui est sympa aussi, c'est de voir que la coopérative valorise la production bio, ce qui n'est pas le cas de toutes les caves. Donc ça, c'est quand même à noter qu'il y ait une mise à part de la production bio.
Alors, il y a eu de gros efforts, je pense, de fait par les coopératives ces dernières années, et particulièrement ces 10 dernières années. Et la plupart d'entre elles produisent des vins bio qu'elles essayent de valoriser, issus de terroirs singuliers. Et là, je pense que le terroir que vous dégustez, c'est un terroir qui est sur les pentes, donc j'évoquais des baronnies, hein, la montagne de Vaux qui est derrière, ça doit être le terroir des Échirons. On a une dominance Syrah et Grenache à 50-50, je dirais. À la dégustation, je saurais dire lequel est le plus présent. Mais par contre, vous le traduisez bien, hein, ça reste frais. On est sur des arômes de fruits rouges, cerises. Et on va vers du mentholé, et ça c'est typique de l'appellation Nyons, où on est dans la garrigue, et on dirait que cette garrigue, le thym qui pousse, transmet ce côté de puissance aromatique en fin de bouche. Avec des tanins qui sont tendus, mais pas agressifs.
Oui, on n'a effectivement pas parlé des tanins, mais on a une jolie souplesse. Ouais. On sent que
c'est encore un peu se garder, il y a encore de la tension.
Qu'est-ce qu'on dirait ?
On peut y revenir en 2020 hein, sur, sujet, la, ouais. sur celle qu'on voit.
Sur la garde. C'est des vins qui se gardent ?
Alors pour le Nyons, ça c'est un vin qu'on peut garder sans problème 5 ans. Après, ça dépend quel type de vin. L'essentiel, c'est de trouver le vin qui nous correspond.
Oui.
On préfère être sur la jeunesse comme il est là. Il est très gourmand, là, il est agréable. Ou si on préfère des arômes un peu plus évolués, qui vont aller un peu plus vers les épices, vers la réglisse peut-être dans quelques temps. Voilà, tous ces arômes-là.
Vincent Dessalles, parlons de l'avenir, enfin du présent et de l'avenir. Vous en avez déjà dit quelques mots. On a ce cadre des appellations avec ce système de cahier des charges qu'on connaît bien, cette démarche des domaines, des vignerons pour entrer dans une appellation qui fige un petit peu un certain nombre de pratiques, que ce soit le nombre d'hectos à l'hectare, le nombre de pieds, je crois, plantés à l'hectare, les cépages autorisés ou non autorisés. Et face à cela, on a la nature qui se dérègle, le climat qui se dérègle, une sécheresse qui est très forte dans particulièrement dans ces régions. Alors, c'est très différent entre, encore une fois, entre d'un côté à l'autre, ou à Nyons, j'imagine qu'il y a un peu plus de fraîcheur, vous êtes en altitude, il y a des endroits où on peut irriguer parce qu'on est à côté du Rhône. Il y a une grande diversité de situations. Mais comment faire face aux défis qui sont bien présents? Et là, les dernières années, les derniers millésimes ont bien montré à quel point voilà, la sécheresse, elle est là, le réchauffement, il est là.
Je crois qu'il va falloir que chacun ait une âme de chercheur. Hein. Il va falloir expérimenter beaucoup. Il va falloir que l'INAO tolère un peu ses expérimentations. Alors, bien sûr, de manière à la petite cuillère. Hein. On va pas,
quel type d'expérimentation vous pensez les cépages, principalement?
Bien sûr. Tout à l'heure, je parlais du Carignan blanc. Je pense également alors, au Vermentino. Qui pourrait s'adapter sur nos terroirs. Après, il faut l'implanter, l'étudier, mais il faut que le pas de temps soit un peu plus rapide que ce que l'on a connu jusqu'à aujourd'hui pour l'INAO, parce que l'accélération du dérèglement climatique, vous l'avez dit, est bien présente et on la ressent chaque année. Donc, si on attend de valider tous les process avant de pouvoir les utiliser de manière plus générale dans l'appellation. C'est un pas de temps à 20-25 ans. D'ici là, je pense que bon nombre d'entre nous se seront épuisés et auront disparu.
Alors comment ça se passe concrètement c'est votre rôle aussi, vous qui fédérez un peu les énergies, de presser les instances d'accepter quoi un pourcentage d'encépagement qui serait dédié justement à faire des essais, à réimplanter d'anciens cépages.
Exactement. Et il faudra, me semble-t-il, que l'INAO soit plus ouverte à l'expérimentation et que cette expérimentation, même si elle doit finir par des expérimentations négatives, le vigneron n'en pâtisse pas sur son exploitation. Il aura fait preuve de volonté d'aller chercher, d'être un pionnier dans un domaine. Malheureusement, si ce n'est pas validé à la fin, il ne faut pas qu'il perde le bénéfice de l'appellation sur la parcelle ou sur une partie de son exploitation.
Imaginez un système de compensation pour ceux qui dédieraient 2, 3, 5 hectares à telle expérimentation.
À partir du moment où ça reste de l'expérimentation, alors on n'est pas dans des surfaces de 3 à 5 hectares quand on expérimente, c'est plutôt des surfaces de 1,5 hectare.
D'accord.
Je ne pense pas que si on fait une expérimentation d'un demi hectare de Vermentino sur 10 communes des Côtes du Rhône, le domaine qui aura ses Vermentino ou ses Carignan blancs sur sa propriété va travestir le Côte du Rhône avec une aussi petite quantité. Voilà, on peut lui laisser le droit jusqu'à la fin de la vigne de produire quand même de l'appellation parce que ça aurait été quelqu'un qui a voulu aller de l'avant et qui a voulu expérimenter.
Le sens de l'histoire, c'est qu'effectivement, c'est être la limite nord du cépage. Le cépage qui, on en parlait...
Exactement.
Les cépages s'expriment bien dans le sud, Vermentino en Corse ou en Italie, Carignan aussi du côté du sud-ouest, là, du côté des Corbières, etc.
Les Corbières, oui.
On en avait chez les Dogards, un superbe Carignan blanc. L'idée, c'est qu'on puisse effectivement les remonter au nord pour que ils s'expriment toujours aussi bien, mais en prenant de la fraîcheur, en remontant au nord, mais en gardant leur caractère d'équilibre. Donc c'est comment on fait pour que les cépages blancs remontent petit à petit au nord, ceux qui s'expriment dans le sud, parce que s'ils tiennent la route en Corse avec le réchauffement, ils vont tenir la route à Nyons, quoi.
Même chose sur le rouge, la Syrah.
Exactement, la Syrah qui tend à gagner vers le nord, hein, puisqu'il y a des expériences qui se font au-delà des côtes du Rhône en Syrah. Après, vous savez qu'un cépage il faut avoir un accord également de la zone qui le cultive de manière ancestrale. On ne pourra pas, par exemple, cultiver de la Syrah en Bourgogne si les Côtes-du-Rhône pensent que c'est leur cépage singulier qui ne peut être utilisé en Bourgogne. Après, tout le monde évolue. Hein.
Quelles sont les dynamiques après, oui, pardon.
Vincent. Après, vos métiers, vous parliez de la sécheresse qui est de plus en plus prégnante.
Oui.
Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents n'étaient pas encadrés par un cahier des charges aussi restrictif au niveau de la densité de plantation. Et la densité de plantation est un des éléments avec lequel on peut jouer sur la sur le stress hydrique, puisqu'on a une obligation de planter à 4000 pieds hectares. Nos grands-parents les plantaient plutôt à 3000. Et les vignes qui ont l'âge de deux générations résistent mieux à la sécheresse que celles qui ont été plantées depuis 1995 à la densité de 4000 pieds hectares. Là, ça serait un pas assez simple, me semble-t-il, à l'INAO de franchir en revenant à un cahier des charges qui a connu cours dans les années 80, 70, voilà. Il y aurait des possibilités à faire de manière assez rapide.
Réduire la densité de pieds pour pomper moins d'eau, parce que concrètement, il y a moins d'eau, quoi.
Exactement, vous retrouvez avec une densité de pieds plus faible, donc une surface par pied plus importante, donc une capacité des racines à explorer le sol en surface et en profondeur plus importante, donc à capter un petit peu plus d'eau pour remonter sur la souche et les raisins.
Merci Vincent pour tous ces éclairages. Si on parle de les dynamiques qui sont à l'œuvre, on a déjà dit et redit que l'Odon allait passer cru. Quels sont les suivants? Aignons vient d'arriver dans les Côtes-du-Rhône village nommé. Vous en auriez quelques-uns qui toquent à la porte et qui seront, à votre avis, les prochains, en tout cas qui sont candidats à être les prochains?
Pour le moment, directement, il y en a point qui ont fait la demande officielle. Après, chaque village, parce que, comme je l'ai dit en préambule, l'INAO reconnaît le travail qui a été fait par des hommes sur un territoire donné avec un cépage ou des cépages d'une appellation. Pour l'instant, il n'y en a pas qui en ont manifesté directement l'envie, mais je pense que on a certains villages qui s'intercalent entre des crues, là. Je pense à Sablé, à Siguré, à Visan, voilà, qui pourraient, me semble-t-il, en faire la demande dans les années à venir.
Pour devenir cru, là, pour passer à l'échelon supérieur.
Pour passer à l'échelon supérieur, oui. Vous voyez, c'est une famille mouvante et qui a toujours l'envie d'aller plus haut. Vous parliez des évolutions dans les cahiers des charges, des ouvertures que l'on peut avoir. On est très attentif aux cépages résistants dans les Côtes-du-Rhône et on va intégrer, si l'INAO nous le permet, un certain nombre de cépages résistants à la dose homéopathique. Ça peut être un maximum de 5% de l'encépagement pour l'instant. Ces cépages sont résistants, vous savez, ils ont été sélectionnés non pas par clonage mais par métissage. Hybridation, donc. Ils ont été donc sélectionnés pour résister aux maladies comme l'oïdium, le mildiou, et ça évite de traiter avec des produits phytosanitaires.
Finissons là-dessus, peut-être. Le fait de vouloir passer en bio, on sait bien qu'il y a une dynamique au niveau des domaines, de plus en plus de domaines sont bio, vous le disiez, les caves coopératives font maintenant la plupart du temps des cuvées spécifiques sur le bio. Est-ce que c'est aussi une démarche que vous souhaitez voir advenir que dans les domaines et à ce niveau-là, des Côtes-du-Rhône village nommés, on réduise l'impact environnemental, on réduise le nombre d'intrants?
Je ne connais pas un vigneron aujourd'hui qui n'est pas soucieux de limiter l'utilisation de produits phytosanitaires. Alors, dans les Côtes-du-Rhône village nommés, comme dans les autres Côtes-du-Rhône, les crues ou le Côtes-du-Rhône régional, c'est la marche à suivre. Hein. Nous avons développé avec l'appellation Côtes-du-Rhône la charte des paysages qui protège nos territoires et nos paysages. Nous développons l'organisme de j'ai oublié le nom, l'acronyme ce sont les OAB, c'est l'Observatoire agricole de la biodiversité, donc des vignerons sont engagés, il y en a 70 ou 80 dans les Côtes-du-Rhône village nommé, qui sont engagés, qui font des comptages de certains parasites, mais surtout de, par exemple, de chauves-souris, de vers de terre, de papillons, et Par exemple, l'appellation, on parlait de l'Audin tout à l'heure, je sais que Maison Sinaé est engagée à poser sur l'appellation des nichoirs pour les chauves-souris. Chauves-souris qui viennent complémenter les, éventuellement les traitements pour le ver de la grappe, puisque une chauve-souris mange 2 à 3 000 insectes par nuit. On essaie et on voit l'efficacité de ce genre de direction que l'on prend. Hein. Il n'y a pas à avoir de préférence entre une agriculture, on va dire, traditionnelle, conventionnelle et une agriculture biologique. Il y a un seul cap à tenir, c'est que nos territoires, que nos terroirs soient le moins empruntés possible par la viticulture et qu'on puisse avoir de la naturalité qui nous entoure.
C'est peut-être l'occasion de rappeler effectivement que, bon, moi j'aime bien la petite page œnotouristique.
Bien sûr, la région s'y prête.
On couvre une région, on n'en a peut-être pas assez parlé, qui est juste incroyable à découvrir, hein, c'est magnifique. On parlait des baronnies, d'aller faire des randonnées dans les baronnies, c'est super. À partir de Nyon, il y a des tas de petits chemins de randonnée à explorer. Un petit peu tous les... Bon, on a parlé de Séguret, qui accrochait quand même aux dentelles. C'est vraiment une région... moi, j'aime bien préciser, parce que c'est toujours... Il y a une dimension dans le vin qui reflète ces lieux. Et quand on boit du vin, on doit voyager. Il est important de pouvoir un peu visualiser les paysages dans lesquels ces vins sont produits.
Ça fait partie de la dimension, effectivement, des paysages voilà, extraordinaires du coin. Beaucoup de paysages viticoles sont de beaux paysages, mais vous avez la chance d'avoir une région touristique. Et le no-tourisme aussi se développe, d'ailleurs.
De plus en plus. Ouais. Chaque domaine a sa petite soirée, sa petite dégustation, ou plusieurs, si le domaine... Et plus important, l'interprofession met en place, j'en citerai qu'une, c'est Cinévigne, une des opérations qui se fait pendant l'été, où on peut aller voir un film au milieu des vignes qui est projeté, et en même temps, en préambule, avant la projection, vous avez des vins du terroir, alors selon où vous trouvez, ça peut être Séguret, ça peut être Rouex, ça peut être tout un tas d'autres terroirs, et vous avez une dégustation commentée là, et vous pouvez profiter d'une soirée étoilée en regardant un film sous la brise du Mistral, s'il n'est pas trop agressif.
La bonne idée. Merci infiniment, Vincent Dessagne, d'avoir porté haut les couleurs de ces Côtes-du-Rhône villages nommés, qu'on connaît désormais un petit peu mieux. Je ne vais pas tous les reciter, mais ils sont au nombre de 22. On les postera dans le descriptif de l'épisode. Puis on invite chacune et chacun, peut-être déjà à aller demander à son caviste. Hein, pourquoi
absolument.
Pas. J'ai entendu une émission, on m'a parlé de l'Audin, on m'a parlé de Nyons, on m'a parlé de Plan de Dieu, on m'a parlé de Massif du Chaux. Est-ce que vous en avez on va et inviter évidemment aussi à aller faire un tour dans cette région. Si vous y habitez déjà, vous êtes chanceux. Et si vous n'y habitez pas, allez y faire un tour en vacances. Vous serez jamais loin d'un domaine. Pour aller déguster d'une cave coopérative, pour aller faire la petite dégustation. Patrice, tu nous rappelles les vins qu'on a goûtés ?
Alors, les vins qu'on a goûtés, c'est effectivement l'Audin Blanc, le Joseph Villa et Michel Chapoutier, qui s'appelle donc l'Audin Côte-du-Rhône Village. Le domaine des Maravillas, toujours en blanc, l'Audin Maestral. Et en Côte-du-Rhône, donc pour Village Nyons, c'est Quintessence de la cave Nyonsaise.
La Nyonsaise,
voilà. Et puis on remercie aussi tous les vignerons qui nous ont envoyé des échantillons pour l'Audin, cave Sinaé, qui nous ont envoyé deux échantillons. Château de Bord, donc la famille Brotte, Domaine Pélaquier, Maravillas et Joseph Villa-Michel, on en a parlé, et puis effectivement les vignerons des Quatre Chemins et le domaine d'Antonin, ça c'est pour l'Audin, et puis pour Nyonsaise, il y avait les deux domaines indépendants et puis deux caves coopératives.
Voilà, merci beaucoup Vincent, bon courage pour ce travail de long cours, hein, pour continuer à promouvoir les Côtes-du-Rhône village nommés. Et bon courage dans votre travail de vigneron. Là c'est une période un peu calme, la taille va commencer, c'est ça ?
Oui, ben pour nous, elle a commencé aujourd'hui, vous voyez.
Ah ben voilà.
Merci beaucoup de m'avoir reçu et entendu. Merci à Valérie, merci à Patrice et à Laurent. Voilà, et j'ai le plaisir de vous convier dans notre belle région et j'espère pouvoir vous recevoir un jour.
Voilà, apparemment, il y a un resto sympa, donc on va venir.
Ouais. On sera là demain.
Dans les Côtes-du-Rhône. Demain, il fait un peu frais. Je vous ferai partager, si vous voulez, demain, la cueillette des olives, mais...
Avec grand plaisir.
On attendra peut-être le printemps pour se réunir autour d'une bonne table dans notre tout petit village.
Merci beaucoup, encore. Vincent.
Merci Vincent.
À bientôt. Au revoir.
Bonne soirée, au revoir.
Bonsoir.
Voilà, ainsi s'achève ce petit tour. Côte-du-Rhône, village nommé, on en sait beaucoup plus. On a bu des bons vins et on va continuer sur la route des Côtes-du-Rhône en parlant d'un cru, cette fois, dans une prochaine émission. Merci Laurent. Merci Valérie.
Merci.
Merci Patrice.
Merci.
Et bien à bientôt.
Au revoir.
Salut.
Bonsoir.
Ciao. Darling, it's